Et allez, on remet le couvert. Mais pour l'actu local,
on se met à découvert.
Les instants des Bartas.
Ce sont des interviews, des reportages ou des chroniques.
Les lundis et mercredis à 8h30.
Les mardis, jeudis et samedis à 17h.
Ou le vendredi à 11h.
Un créneau curieux de tout.
Qui parle de vous.
Du local et un peu d'autre chose.
Les instants des Bartas.
Sur le 107 FM.
Possibilité de tout, là, oui. Allez, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Radio Bartas, si vous nous rejoignez, bienvenue sur le 107 au programme de ces instants des Bartas en deuxième partie d'émission. Nous serons avec Jean Fossard. Ce samedi 5 avril, Jean donnera une conférence sur les menhirs qui sont sur la chambre des Bondons. Ce sera à 18h à la salle communale du village, on en parle avec lui tout à l'heure, sous un angle, disons, assez intéressant. Et puis ça y est, nous sommes début avril et vous le savez, évidemment, l'un des festivals emblématiques de Florac débarque avec son accent qui chante. Ça commence mardi 8 avril, ce sera jusqu'au dimanche 13, Vue du Québec va encore vous éblouir cette année. Pour en parler, Guillaume est avec nous. Bonjour Guillaume.
Oui, salut.
Directeur du festival, directeur de la Nouvelle Dimension, merci d'être avec nous. Tu es accompagné par Julien, bonjour.
Salut.
Alors je ne t'avais pas prévu dans l'interview, donc tu interviens quand tu veux.
Parfait.
Voilà Julien, tu es assistant à la coordination et bénévole au festival. Je le disais, ça envoie du lourd cette année, on va parler du festival avec vous dans quelques secondes. Il y aura de la musique, comme d'hab, aujourd'hui les colocs. Et oui, puisque Dédé dans la brume sera diffusé pendant le festival, on en parle aussi tout à l'heure. Et Lucie est avec nous, bonjour.
Bonjour.
À la technique, merci beaucoup. Toi aussi, tu interviens quand tu veux, si tu veux, si tu es inspiré. Vous avez le programme et c'est parti. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça commence à dater ce festival et encore une année incroyable nous attend. 44 films, évidemment des courts-métrages, des nouveautés, une quinzaine d'invités. On va parler de tout ça. Alors Guillaume, quand j'ai commencé à préparer cette émission, j'ai bugué. Plus moyen de me souvenir comment s'appelait le festival avant que ça devienne Vue du Québec. Bon, ça m'est revenu après, ça s'appelait 48 images secondes. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt cool parce que ça veut dire que Vue du Québec s'est vraiment imposé le nom et ça a vraiment donné une identité au festival.
Oui, complètement. Bah, même moi, hein, d'ailleurs, on n'a pas oublié. Hein. On est ravis de ces premières années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, on travaille avec nos activités de distribution qui s'appellent Vue du Québec Distribution. Donc, on va dire le terme Vue du Québec revient très souvent et puis est très, très identifié maintenant à la fois au Québec. Donc, ça fait un petit moment maintenant. Mmh. Mais je le vois aussi en France, dans un milieu plus professionnel de distribution, où on me demande, où on nous demande souvent le lien, enfin les gens ils ont besoin de comprendre entre la Nouvelle Dimension et Vue du Québec Distribution, mais voilà, donc ça commence à porter ses fruits de poser une marque comme ça, une expression.
Un petit mot sur l'édition de l'année dernière, ça s'est passé comment ?
On était très contents, ouais. Très contents parce que tout s'est bien passé, on n'avait pas eu de soucis, je dirais que la seule petite déception c'est de pas avoir développé un petit peu plus l'auditoire. On espérait augmenter un petit peu, mais ça s'explique aussi parce qu'on avait moins d'activités. On était en équipe réduite, avec des changements dans les équipes. On était deux pour préparer le festival dans les trois mois qui précédaient. Là, cette année, on est cinq. Donc, j'ai pas... ça devrait, on espère, changer des choses. Mais disons que l'an dernier, on s'était surtout concentré sur les séances qui s'étaient très bien passées. On avait eu quand même plus de monde sur les entrées, mais on avait moins d'activités parallèles, annexes, et ce qui fait que bah, forcément ça fait un peu moins de public. Mais on était à 2500 entrées, et puis l'année d'avant 2007, et puis là on vise
les 3000.
Les 3000.
Bah ouais, ouais. Quand on se met des petits objectifs.
Exactement.
Comme ça, assez sympa.
Et puis si on est en dessous, c'est pas grave.
Julien, tu viens d'où ?
Oui, moi je viens de Montréal, donc première fois à Florac, j'en avais même pas tant entendu parler. Première fois aussi que je suis pour quelque temps dans un milieu un peu plus rural, un peu plus en campagne, mais j'aime bien, les gens ici sont tellement sympas, donc on me fait un bel accueil.
Alors, assistant coordination, ça nous a fait rire avant de rentrer dans les studios, ça
oui.
Consiste en quoi?
Mais dans le fond, je suis ici pour deux mois, c'est un genre de stage avec l'Office franco-québécois de la jeunesse qui permet ça, un peu de la mobilité entre le Québec et la France, donc pour permettre à des jeunes justement d'aller à l'étranger, outre-Atlantique, puis là je suis là pendant deux mois pour travailler avec Guillaume, justement un peu par rapport à tout. Là, je suis un peu le bras droit de Guillaume au niveau des coms, au niveau de la logistique sur le festival, la préparation, mais surtout au niveau des communications, préparer le programme, site internet, tout ça, et d'avoir un vrai Québécois dans l'équipe du Festival Vue du Québec.
Et moi, ça fait 10 jours que j'entends cet accent, puisque merci beaucoup Guillaume de m'avoir procurer quelques films avant pour préparer le plateau hein, qu'on fera le mercredi à 10h. C'est toujours mieux de les avoir. Bon, on va évidemment pas pouvoir parler de toute la programmation tant elle est énorme cette année. Ceci dit, encore une fois, on va visiter une région du Québec et cette année, on part en Estrie. Est-ce que tu peux nous faire une petite carte postale radiophonique?
L'Estrie, c'est une région qui est entre Montréal et les États-Unis. Donc, c'est une région qui est à la fois proche de la frontière américaine, donc assez anglophone. Il y a des, pour la petite histoire, par exemple, sur l'affiche du festival cette année, on voit un bâtiment qui est un des bâtiments emblématiques d'une petite ville qui s'appelle Knowlton, et qui est une librairie anglophone. Et les villages et les villes de cette région ressemblent beaucoup à, si vous avez des images des films de Stephen King, alors pas forcément la partie un petit peu angoissante, mais plutôt le décor, etc. C'est ce qu'on va retrouver dans le Maine, dans le Vermont aux États-Unis. Donc c'est vraiment un peu des paysages très vallonnés. Un peu de forêt, de la vigne aussi, il y a beaucoup d'agriculture. On avait reçu déjà il y a 2 ans quelqu'un qui venait de l'Estrie et qui avait dépeint un petit peu le développement des micro-fermes agricoles dans ce coin-là. Ça ressemblerait aussi à une région assez touristique, puisqu'elle est assez proche de Montréal. Donc à la fois, il y a des gens qui y habitent, qui font le pont entre les deux, qui habitent soit à Montréal et qui ont une maison en Estrie, soit à l'inverse. Donc c'est assez vivant, c'est assez dynamique. Et oui, c'est une région qui est marquée aussi par la présence des États-Unis à proximité. À la frontière, il y a des bâtiments, il y a une bibliothèque, il y a un cinéma où la frontière passe au milieu.
C'est génial.
Donc vous entrez dans la bibliothèque par les États-Unis ou par le Canada. Et là, récemment, ils ont fermé d'ailleurs la porte côté Canada. Voilà. Donc c'est vraiment un mélange d'un point de vue culturel qui est assez intéressant.
Je vous mettrai un petit spot sur le site tout à l'heure, auditeur, auditrice, pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est a l'air assez sympa. Puisqu'on parle d'Estrie, on va commencer par parler de Pascale Buissière qui vient d'Estrie justement, qui est comédienne et qui sera cette année présidente des courts-métrages, c'est ça?
Oui, Pascale, on avait proposé de l'inviter au départ par rapport au départ avec le film Frontières dont on parlera et puis Marécage, donc deux films de Guy Hédouin qui lui habite clairement au cœur, j'en reviendrai, de ces films parce que ces films sont tournés autour de sa maison. Et Pascale Buissière est vraiment une ambassadrice, on va dire, de l'Estrie maintenant, et fait partie du conseil d'administration d'un festival qui s'appelle Festival du film de Knowlton, dont je parlais de la ville tout à l'heure, et qui est un festival avec lequel on démarre un partenariat pour 2 ans. Et donc c'est à la fois, elle vient dans le cadre de ce partenariat, elle vient parce que plusieurs de ses films sont tournés en Estrie, enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment ancré sur ce territoire. Et puis là, pour le coup, on a de la chance d'avoir, on va dire, des stars. Il n'y a pas vraiment de star system au Québec, donc, puisqu'ils sont quand même beaucoup plus modestes que ça, mais c'est quelqu'un qui a fait énormément de films, qui a fait plusieurs films en France aussi, la répétition à Catherine Corsini, qui a joué dans beaucoup de séries. Et donc on est ravis d'une part de voir que ces personnes arrivent à caler une présence à Florac dans leur emploi du temps, mais aussi qu'il y a une vraie volonté de venir, parce que on a le cas avec André Forcier aussi, on en reviendra, c'est des gens qui demandent à venir. Donc après, c'est beaucoup plus facile de négocier leur arrivée dans ce cas-là, parce que donc là on propose, ça a commencé par là d'ailleurs, une petite rétrospective avec 3 films, 2 qui sont tournés en Estrie et puis un qu'on avait déjà programmé dans le cadre du Ciné Club, qui est le premier film de Denis Villeneuve, Un tourneau sur terre, mais qui est aussi un des premiers films dans lequel elle joue.
Les deux tournés en Estrie, c'est Marécage et Frontières.
Oui.
Justement, en transition toute trouvée, une légende du cinéma sera présente sur cette édition. Il recevra un prix d'honneur, si je ne m'abuse, c'est André Forcier. Alors, qui est-il?
André Forcier, je ne sais pas si Julien, tu veux présenter un peu ta version depuis Québec.
Oui, André Forcier, c'est vraiment un monument, si on veut, du cinéma québécois. C'est quelqu'un qui est actif depuis les années 70, je crois, qui a environ une quinzaine, rendu à 17 films à son actif. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué le cinéma québécois. C'est aussi aussi toute une personnalité. Mmh. Donc, si vous avez la chance de le croiser dans les rues de Florac, allez lui parler, parce que c'est vraiment un monument, une légende vivante, puis une partie de la mémoire du cinéma québécois, je crois aussi, parce qu'il a traversé justement toutes ces années-là. Et à travers ses films, justement, il nous parle d'un Québec un peu révolu, notamment de la grande noirceur, de l'époque où l'Église avait un grand contrôle sur la population québécoise. Donc, il nous parle de tout ça, notamment à travers Ababouiné, qui est en compétition cette année, dont tu sembles... je te vois réagir à la mention d'Ababouiné.
J'ai adoré.
Donc, c'est ça. Donc, André Forcier, je pense que c'est quelqu'un, justement, qui a eu un impact aussi dans le cinéma québécois et qu'on va honorer, justement, cette année d'un prix hommage au Festival Vue du Québec.
Et un documentaire qui lui sera consacré aussi. Alors, on lui demandera comment on dit son prénom et son nom. Hein. Jean-Marc Heuroy, qui va présenter des histoires inventées.
Oui, Jean-Marc est très proche d'André Forcier. Ils se connaissent très bien depuis longtemps. Et c'est un documentaire qui a la particularité de proposer un portrait d'André Forcier, tout en intégrant non pas des images de ses films, mais des scènes rejouées de ses films. Il n'y a pas besoin de connaître toute sa filmographie. Au contraire, c'est vraiment un documentaire qui donne envie d'aller plus loin et de découvrir un petit peu plus ses films. Et c'est un film qui sera, pour faire une petite parenthèse, qui sera programmé également au Cinéma Utopia à Montpellier le 11 avril, donc pendant le festival, qui est une petite séance hors les murs. Et puis, à Uzès aussi, le film sera programmé. C'est une proposition qu'avait fait Jean-Marc, qui a plutôt bien été, qui est vraiment un film hommage aussi à son cinéma et aux personnages. Et là, on en reparlera pendant le festival, mais ils viennent de finir la réalisation d'un nouveau documentaire, tous les deux, ensemble. Donc le prochain film de André Forcier et Jean-Marc Heuroy sera pas présenté au festival cette année, puisqu'il n'est pas prêt, il sortira en fin d'année 2025. Mais voilà, c'est vraiment une collaboration de longue date entre les deux.
Vous allez essayer d'être distributeur du film ?
C'est déjà dans les tuyaux. Mmh. Ouais.
On va continuer à parler de la programmation dans un instant, mais vous avez lancé l'année dernière une résidence d'écriture scénaristique croisée. Comment ça s'est passé ? Comment ça va se passer ? Et qu'est-ce qui va se passer
Alors, c'est bien que tu en parles, parce qu'on a eu des nouvelles hier soir.
Ah, c'est sympa. C'est...
On a commencé à lancer ça l'année dernière d'un point de vue unidirectionnel, on va dire. On a reçu un Québécois, David Nadeau-Bernatchez, au mois de septembre dans la résidence du Four à Pain, là, chez Marie Descourtieux, qui a lancé cette résidence en septembre 2024. Et l'idée de départ, c'était d'avoir un Français qui va aussi au Québec dans un autre lieu de résidence au même moment. Ces deux scénaristes vont se croiser. Ils vont se croiser au mois de septembre dans le cadre du Festival de la Ville de Québec, mi-septembre. Et puis, ils vont se croiser aussi à Florac ou dans les Cévennes, on est en train de construire ça, fin octobre. Et donc, c'est là, l'idée cette année, c'est d'avoir ces deux résidences. On a demandé des financements, puis on a appris hier soir qu'on n'avait pas les financements. Alors, pour cette année, ce n'est pas grave, parce que les projets sont quand même lancés. C'est des financements qui permettent de solidifier, on va dire, ce projet, mais qui ne le remettent pas en cause. Donc là, on a fini l'appel de candidature. On a reçu 14 candidatures de scénaristes québécois et québécoises. Donc c'est 4 de plus que l'an dernier. Et il y a eu 13 candidatures de Français et Françaises pour aller sur l'île verte au Québec. Donc on est vraiment contents parce que on s'est concerté, mais sans qu'on ait pu pousser plus ou moins d'un côté de l'autre de l'Atlantique, on a eu à quasiment autant de candidatures. Donc là, pendant le festival, il y a un jury qui va sélectionner le ou la québécoise, et etc. pour la française. Et puis ça sera annoncé à la clôture.
C'est la cérémonie de clôture. Ouais. Allons-y pour la soirée d'ouverture. Hein, il y aura le désormais traditionnel Tintamarre qui revient.
Oui.
Ça devient incontournable.
Ça devient incontournable, surtout que l'an dernier, il ne s'était pas fait. Donc il était dans le programme, mais on va passer outre. On va revenir. On travaille avec. On a changé de Patoukada. On est passé du côté du pont de Montvert. On essaie de travailler un petit peu avec tout le monde. Donc là, on démarre place de la mairie à 18h. Enfin, 19h pour la Batugada, il y a un petit apéritif, un lancement officiel, on va dire, du festival à la mairie. Après, de 19h jusqu'à 20h, déambulation dans les rues de Florac. Et puis, pour être à 20h à la Jeunette Verte, avec une cérémonie d'ouverture qui démarrera à 20h30.
Et vous aimez aussi bosser avec les écoles, notamment là, les lycéens, puisque il y aura le 4e prix lycée qui sera remis...
Oui.
À la soirée d'ouverture.
Oui, c'est ça. On a eu un peu moins de lycées participants cette année, mais on a plus de... Enfin, toujours autant de volonté, on va dire, des lycéens de venir. Là, on a 4 lycéens du lycée de Foix, du lycée Gabriel Fauré à Foix, donc on a en Ariège. Donc, ils font 6 heures de voyage pour venir dans la même région, mais en tout cas pour venir chez nous, pendant 3 jours. Et là, on leur a concocté un programme avec plein de rencontres avec les cinéastes et tout ça. Et donc, ils monteront sur scène pour la cérémonie d'ouverture pour remettre le 4e prix. La délibération est demain. On ne sait pas encore quel va être le film. Et par contre, on a corrigé une petite erreur qu'on avait l'an dernier. C'est quand on a annoncé le prix, les gens étaient ravis du prix, mais on ne l'avait pas vu. Et donc là, on a décidé d'inclure une séance surprise dans le cadre du festival, qui sera le jeudi à 18h, qui sera donc le prix annoncé lors de la soirée d'ouverture. Donc, ça sera peut-être un film qu'on a programmé l'année dernière, peut-être pas.
Ouais.
Mais dans tous les cas, les lycéens vont animer cette séance aussi. Donc, c'est vraiment un projet de médiation pour eux de monter sur scène, de parler auprès du public et tout ça. Donc, ils sont au courant, ils vont se préparer pour ça.
Il y aura la fonte des glaces aussi en film et puis évidemment à l'animation et pendant tout le festival, ce sera Daniel Racine et qui travaille aussi à la programmation.
Oui, ah oui, on travaille tout au long de l'année, Daniel et moi. Et puis, Sylvain Garel revient aussi cette année pour animer 2 films d'André Forcier. Les 2 films les plus anciens, c'est pas tant parce que Sylvain est le plus ancien, mais il connaît aussi très très bien le travail d'André Forcier, qui suit depuis les années 80. Donc, c'était aussi, on aime bien proposer à Sylvain d'intervenir plutôt qu'il soit juste spectateur. Pour rappel, c'est le seul historien français du cinéma québécois, donc ce serait dommage de ne pas le faire intervenir. Mais oui, Daniel va animer tout ça.
Alors le mercredi, nous on aura la chance avec Radio Bartas d'être à la pompe à 10h pour un plateau exceptionnel avec une dizaine d'invités. Et de même, l'après-midi à la pompe, il y aura un atelier qui sera donné par Jean Vaudreuil. Un mot sur lui, sur ce qu'il va proposer.
Oui, c'est une bonne question, tiens. Je crois qu'il ne le sait pas lui-même encore. Joël Vaudreuil, c'est un musicien, cinéaste d'animation. C'est le batteur de Avec Pas de Casque. Donc, on avait reçu le chanteur plusieurs fois pour Stéphane Lafleur pour ses films. Donc, vous l'aurez compris, les artistes sont surtout pluridisciplinaires. Et Joël est en tournée avec Pas de Casque, sauf la semaine du festival. Donc, on a la chance de pouvoir le recevoir. Il réalise des clips, donc des clips animés de plusieurs. Donc, il a 3 formations musicales, lui. Et il réalise aussi des films d'animation. Il a fait plein de petits cours d'animation, un long métrage, Adam change lentement, qui sera en compétition cette année. Et c'est lui qui fait la musique de ses propres films. Mais de ses dires, il improvise beaucoup. Il n'a pas de formation musicale. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, mais ça veut dire qu'il est même déjà incapable de savoir ce qu'il va raconter. Mais l'idée, c'est par rapport à la leçon de film d'animation, c'est plutôt qu'il parle un petit peu de son parcours, comment lui, il est arrivé à faire des films d'animation et comment arriver à faire des films d'animation avec peu de moyens, parce que vous pourrez le voir, certains de ces films vont être disséminés dans le cadre du festival, il y aura une carte blanche.
C'est à lui des films à Jean-Marc Heroy aussi.
Et à Jean-Marc Heroy aussi. Et c'est des films d'animation qui sont faits avec des dessins assez... qui peuvent être parfois simplistes, mais aussi un petit peu de stop motion. Mais ce n'est pas des choses qui sont très compliquées en apparence. Mais en tout cas, c'est des choses que lui maîtrise. Et puis c'est... Alors, pour un peu aller plus loin dans son type de film, il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est question autour du harcèlement scolaire. On a un petit film d'animation qui va être avant un babouiné à cette occasion. C'est assez trash aussi, hein, il y a un petit peu d'hémoglobine.
C'est Récré du Midi ?
C'est la réaction du midi, ouais. Ouais, et puis, mais dans sa carte blanche, il y a 2 clips, notamment celui de Cheval Fou, qui est un groupe québécois. Puis il y a un petit peu de sang quand même dans le clip. Ça s'apparente un petit peu, pour ceux qui connaissent un peu Buffy the Butthead, où on est au-delà des Simpsons au niveau du public, quoi.
Tu voulais dire un mot? Je peux me permettre, ouais, par rapport aux leçons de cinéma, je pense que ce qui est cool aussi ici à Florac, c'est que, comme on disait, c'est des noms qui sont quand même assez établis dans le cinéma québécois. C'est quand même des réalisateurs, des personnalités que si on croise à Montréal, on n'aurait pas nécessairement le temps de passer 2 heures avec eux. Mais quand ils viennent ici à Florac, ils sont vraiment très généreux de leur temps. On dirait qu'il y a comme quelque chose qui se passe ici, en tout cas de ce qu'on m'a dit des dernières éditions. Donc je pense que c'est vraiment une belle occasion pour les gens justement de rencontrer des gens qui sont bien établis quand même dans le domaine du cinéma et de profiter de leur générosité parce que, bon, à ce qu'on me dit quand les gens débarquent ici, ils ont envie de parler à tout le monde. Il y a comme quelque chose de magique qui se passe du fait qu'ils sont sortis un peu de leur environnement, si on veut, à Montréal, où ils sont un peu des personnalités. Ils arrivent ici, les gens les reconnaissent pas nécessairement, puis ça leur permet un peu d'être peut-être plus eux-mêmes et de parler avec les gens. Donc je pense que c'est vraiment cool, ces leçons-là de cinéma. Si le milieu cinématographique vous intéresse, c'est vraiment des gens là, qui ont un background intéressant.
On reparlera de musique dans un instant, mais il y a une nouveauté cette année, ça m'a bien fait rigoler. Le mercredi à 16h à la pompe, dans les rues de Florac, c'est Canot sur le bitume. Qu'est-ce que c'est?
Oui, alors c'est parti d'une idée un petit peu saugrenue sur la coin de table.
J'imagine.
Mais non, on est très fiers. Alors, très franchement, les canaux sont en train d'être construits, donc ça va être un peu du sans filet. L'idée de départ, c'était, c'est un peu ce qu'on fait avec le festival depuis le début, c'est-à-dire d'arriver à créer des animations ouvertes à tous, public, hors les murs, en dehors des murs de la Jeunette Verte, qui font un clin d'œil au film qu'on présente. Donc là, on va parler de La Fonte des Glaces, qui n'a rien d'une comédie, pourtant, et ni d'une course à savon, mais dans La Fonte des Glaces, qui se passe dans un milieu carcéral, Christine Beaulieu, l'actrice principale, emmène ses détenus dans des sorties de canaux sur glace, qui est une activité typiquement québécoise. Le principe, il est simple, hein, vous prenez un canoë, vous allez au moment de la fonte des glaces, justement sur le Saint-Laurent, et de temps en temps, il y a de l'eau, de temps en temps, il y a des blocs de glace. Donc, il va falloir ramer, mais aussi marcher sur l'eau. Et donc, comme c'est une course, bah, il faut se dépêcher. Et donc, ça demande beaucoup d'entraînement et de technique. Et l'idée, c'était de faire écho à cette côté course des glaces en faisant un canoë sur la route. Donc après, je me suis renseigné auprès de spécialistes dans le coin. À Florac, il y en a. Ça glisse pas un canoë sur le bitume.
Non,
donc il va falloir rajouter des roulettes. Donc là, on s'est associé avec la pompe qu'on remercie, qui va participer à la construction de ces prototypes de course de caisse à savon, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, on a essayé d'imaginer une course par équipe de 4. Donc, si vous pouvez vous inscrire, c'est sur notre site internet.
Cinémaquébécois.fr.
Voilà, c'est une participation libre pour l'achat du matériel qu'a permis au canoë. Et donc, après, tout le monde peut voir. On a eu des courses de vélo dans la rue de Florac, dans les rues de Florac. Pourquoi pas une course de canoë? Et donc, il y aura un petit tour qui va aller de la pompe devant ensuite la Jeunette Verte, passer sous la sous-préfecture, sur l'esplanade, redescendre derrière la Jeunette Verte. Et puis être le premier arrivé. Donc c'est deux canaux qui partent en même temps. Et normalement, si tout va bien, on devrait faire deux courses comme ça. Et puis ensuite une dernière course avec les deux premiers. Voilà. Donc c'est vraiment un essai. Et si c'est concluant, pourquoi pas le faire chaque année.
Donc ça, ce sera le mercredi à 16h. N'oublions pas non plus que La Nouvelle Dimension a 10 ans cette année, qu'il y aura une soirée à la salle des œuvres le mercredi soir.
Oui. Alors c'est pareil, c'est en préparation, on ne sait pas encore, on m'attend beaucoup là-dessus je crois. L'idée c'était, comme on a beaucoup de par exemple c'est quelque chose qu'on avait un petit peu laissé de côté l'année dernière, c'est les deuxièmes parties de soirée ouvertes au public. Il y en avait une avec le concert de Raskanine, mais sinon, c'est pas qu'on ne veut pas rester entre nous, mais l'idée c'est vraiment de proposer des soirées où le public va pouvoir venir à la salle des œuvres, boire un coup, rencontrer nos invités, etc. Et donc on a proposé cette soirée-là, ça va être plutôt, il y aura des photos de tout ce qui s'est passé depuis 10 ans, il y aura un quiz, il y aura des surprises dont même nous on n'est pas encore au courant que c'est des surprises, donc on est en train de préparer ça et c'est vraiment histoire de passer un bon moment ensemble et puis de marquer le coup des 10 ans de l'association qui a repris le festival effectivement en 2015 voilà. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'étaient pas là en 2015, donc on va voir ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire depuis le début.
Oui, il y aura un quiz si jamais il y a des fans de quiz, rappelez-vous de ce qui s'est passé dans les 10 dernières années.
C'est Julien qui va l'animer, donc
Comme je disais tout à l'heure, des auteurs, compositeurs, compositrices seront là cette année. Alors, il y aura Isabelle Cyr. J'ai l'impression qu'elle était déjà venue, ou je me trompe?
Tu te trompes.
D'accord,
mais,
ça arrive.
Mais non, mais c'est bien, elle serait ravie parce que je t'avouerais, quand j'ai rencontré la première fois au mois de novembre, j'avais l'impression qu'on s'était croisés depuis longtemps. Donc, ça s'est fait assez naturellement. C'est Isabelle Cyr et Yves Marchand, qui a un duo de. Donc, lui. Québécois, elle est acadienne. On a déjà beaucoup parlé de l'Acadie ici.
Et c'est peut-être bien pour ça alors.
Ouais, c'est ça. Et ils sont en tournée en France là, depuis un mois et demi déjà. Et donc j'ai un ami qui m'a proposé, il m'a dit est-ce que tu veux pas les prendre dans le cadre du festival ? Sauf que bon, ça fitait pas, comme on dit au Québec. Complètement au départ, parce que oui, pourquoi pas, mais il fallait que je trouve quelque chose de plus. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, mais si tu veux, j'ai joué dans un film de vampires québécois, donc Carmina, film de minuit. Et donc là, forcément, ça a accroché. Et comme on est toujours à la recherche de films de minuit.
Et des films de vampires.
Et des films de vampires. Et donc, c'est une comédie tout public qui sera présentée en film de minuit. Donc, c'est l'actrice principale. C'est un film qui a un film culte au Québec, qui a eu une suite d'ailleurs, Carmina 2. Et comme est-ce qu'elle vient pour le concert et on en profite pour qu'elle vienne pour Carmina, ou est-ce qu'on la fait venir pour Carmina et qu'on la profite pour lui proposer de faire un concert, je vous laisserai choisir. Et donc, on aura un concert à la pompe. Mais c'est quand même une actrice et c'est la sœur de Myriam Cyr, elles sont deux sœurs, qui est aussi actrice et sa sœur a joué avec Al Pacino, avec plein de gens. Donc, c'est des gens qui sont quand même établis dans le domaine artistique acadien.
Vous développez un partenariat encore un de plus, hein, puisque vous en avez déjà pas mal et t'aimes bosser, enfin vous aimez bosser avec les associations de Florac, pas que, puisque avec Los Potasso, il y aura le concert, ce sera Pilou qui sera en concert le samedi soir à la salle des fêtes.
Oui, encore une fois, c'est à force de regarder ce qui se passe autour de nous, ça fait 3 années de suite que Los Potasso fait un concert pendant le festival. Donc là, on est allé les voir, on a dit on pourrait faire des trucs ensemble, ça serait aussi intelligent. Donc là, comme on avait beaucoup de musiciens, on a commencé à réfléchir à qui proposer. Ça aurait pu être quelqu'un qui n'avait pas de lien avec le cinéma, hein. Mais il se trouve que Pilou a plusieurs cartes plusieurs cordes à son arc, plusieurs cartes dans son jeu. donc il fera la première partie du concert de Gaulimard. Et donc voilà, c'est un premier jet de partenariat. Et puis j'espère qu'on pourra le prolonger dans les années à venir.
Et puis nous, on l'aura en plateau, si tout va bien, le mercredi matin. Alors de même, je me souviens plus si l'année dernière, il s'était déjà passé quelque chose à l'entente UNESCO.
Non,
c'est la première année, donc
oui.
Ouais, ça faisait... pouvoir y voir.
Ben c'est ça, moi ça faisait plusieurs années, je me dis il y a quelque chose à faire avec eux. L'idée à chaque fois du festival, c'est choisir des films, mais parfois c'est aussi trouver des partenaires avec qui ça serait intéressant, et tout d'un coup il y a une rencontre. Et là, l'évidence, c'était le film Berger, qui est un autre film de clôture, qui a une petite histoire avec Florac, même si c'est une micro-histoire dans le film et qu'on n'y voit rien, si ce n'est qu'il y a des bergers à Florac. Mais la réalisatrice avait rencontré son premier berger, elle a fait son premier agnolage à Florac, et quand elle était venue en 2016, donc ça remonte quand même un peu. Et quand on a décidé de programmer Berger, c'est devenu une évidence de faire quelque chose avec l'entente Cosséven. Et d'ailleurs, on allait les voir, et avant même que je finisse ma phrase, c'était déjà validé. Donc, puis on est content à Florac que ça se passe comme ça, on n'a pas besoin de monter des dossiers, en parler pendant 6 mois. Et donc, il y aura une exposition, ils vont ressortir une exposition sur la transhumance qui avait déjà été dans les rues de Florac l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Et puis, il y aura une table ronde, une discussion croisée, on a changé le nom cette année, ça fait plus ouvert, je pense, autour du changement de vie. Donc, si vous aussi, vous avez changé de vie pour venir vous installer à Florac, n'hésitez pas à venir témoigner. Ou si vous avez envie de le faire, c'est surtout ça qu'on vise. Donc ça sera le dimanche 13 avril en fin de matinée. Et puis, on va y être aussi, ça, ce n'est pas dans le programme, mais pour la délibération des lauréats pour la résidence croisée, ça va se passer là-bas aussi.
Le samedi, encore une nouveauté, si je ne m'abuse, ce sera à la pompe de 10h à 16h. Vous souhaitez lancer une cellule kino.
C'est le dimanche.
C'est le dimanche, tout va bien. C'est donc le dimanche.
c'est une nouveauté, c'est quelque chose qu'on avait déjà un peu tenté, qui était un peu dans les tuyaux depuis plusieurs années, mais on n'avait pas vraiment lancé. Là, c'est pareil, ça va être un essai. C'est un premier rendez-vous pour proposer... je peux te laisser, Julien, présenter. C'est le Kino, parce que c'était fondé à Montréal.
Kino, ça vient du Québec, apparemment. Même moi, je ne savais pas. Je savais c'était quoi un Kino, mais je ne savais pas que c'était à nous qu'on devait la paternité de ça. Dans le fond, un Kino, ça dure normalement soit 24, 48 heures, parfois 3 jours, mais c'est vraiment le but de se mettre en équipe et de créer un film dans un temps donné, donc un temps X. Souvent, c'est fait justement en marge de festivals ou d'événements. On arrive, par exemple, je ne sais pas, un vendredi soir, on crée des équipes, on écrit un scénario, on fait la pré-production, on filme, on monte, et après, mettons, 48 heures, donc le dimanche soir, tout est fini, on remet nos films et on visionne aussi les films des autres. Donc le but, c'est vraiment de faire de la création en accéléré. Là, on dit des fois dans le monde de la création que la contrainte permet un peu de faire naître les meilleures idées, et souvent, les films qui sortent de ça sont quand même très bons, là, techniquement. C'est pas parce qu'on fait ça rapidement que c'est nécessairement... que ça paraît que c'est fait rapidement, mais donc ça permet justement de permettre à des gens de vivre des expériences de tournage complète en peu de temps, de vivre un peu en accéléré la production d'un court-métrage, donc soit pour s'initier ou pour le refaire de temps en temps. Ça permet aux gens justement de faire plusieurs films dans une année ou tout ça, donc c'est quelque chose qui est assez là, commun au Québec. Il y a plusieurs festivals, plusieurs organisations, notamment dans les écoles, qui organisent ça, et donc l'atelier dimanche, ça va être vraiment de s'initier à ça. Je pense pas qu'il y a un film complet nécessairement qui va être fait, mais c'est plus un atelier de réalisation. Donc, de commencer à concevoir comment on pourrait faire ça, dans le but éventuellement là, de faire un vrai Kino à Florac.
Oui, c'est ça, parce que c'est, comme tu dis, c'est un tuyau depuis longtemps. À l'origine du festival, l'objectif, c'était de lancer une cellule Kino à Florac en 2010. Même pas, même avant. Et donc, ça ne s'est jamais vraiment fait, mais l'idée, elle a toujours été là. On a toujours créé des courts-métrages dans le cadre du festival. Les quatre premières éditions, il y avait un concours avec des courts-métrages réalisés avec des contraintes qui étaient les contraintes thématiques. On avait fait le western, on avait fait la nouvelle vague, etc. Mm-hmm. Donc on a dans les tuyaux des petits courts-métrages qui ont été faits dans ces conditions-là. Et donc là, pour être plus clair, on attend des financements qui nous permettraient de lancer cette cellule Kino. Donc là, c'est une première rencontre dans le cadre du festival. Ça se passera toute la journée à la pompe. Vous pouvez vous inscrire, ça ne vous engage à pas grand-chose. Mais si, à l'issue de cette journée, il y a quelque chose qui se crée, une alchimie, un groupe qui se crée, il va y avoir un second week-end ou une journée qui va être proposée début juin avec d'autres Québécois, Québécoises même, puisqu'on reçoit, Florac reçoit, parce que ce n'est pas nous spécifiquement, je les ai un peu aidés à la coordination, Julie Lambert qui était venue déjà l'année dernière et en 2015, qui est professeure de cinéma au Cégep Garneau à Québec et qui vient avec 16 étudiantes pendant 10 jours au mois de juin pour faire ce qu'ils appellent un cabaret de création, ce qui est exactement la même chose qu'un Kino, mais c'est plus francisé peut-être. Et donc pendant 10 jours, ils vont être à Florac pour réaliser plein de films. Et dans le cadre de leur séjour, l'idée c'est de créer une rencontre entre la cellule Kino qu'on aurait possiblement créée au moment du festival le 13 avril, et puis ces jeunes étudiantes en cinéma pour faire une soirée de projection qui est déjà prévue, mais on en reparlera, ça sera début juin.
Et allons-y pour terminer la journée du dimanche, bien sûr, la soirée de clôture avec la remise des prix, l'annonce des lauréats de la résidence, on l'a dit. Et puis, dans les prix, il y a toujours le prix du public qui a déjà été sélectionné cette année ou
Non,
le
c'est
jury.
Le jury, oui, bien sûr. Il y a 6 personnes. Je ne me risquerai pas à dire le nom là parce que j'ai oublié, de toute façon, c'est des personnes qui sont issues du public. Un jury citoyen, comme on aime à dire. Ces personnes, elles auront pour mission de regarder les 7 films de la compétition. Donc, c'est quand même 7 moments à passer en salle. Alors, c'est cool, mais aussi de délibérer ensemble. Donc, cette année, on a Béatrice Mediavilla qui était déjà une de nos invitées de 2023 sur la BTB, qui était venue faire des films de danse, qui voulait venir cette année être bénévole au festival. Donc, elle est derrière en France et tout ça. Donc, elle arrive samedi d'ailleurs. Et elle va avoir pour mission de chapeauter ce jury-là, de les aider dans la réflexion. Il y a ces 6 personnes qui sont de profils complètement différents. Il y a des étudiantes en cinéma, il y a des retraités, même s'ils n'aiment pas que je les appelle retraités. Mais en tout cas, il y a des adhérents de la Nouvelle Dimension qui ne sont plus en activité.
Qui en font des choses.
il y a même un avocat cette année qui revient aussi au festival et qui veut absolument voir tous les films. Donc, il y a vraiment des profils différents. Puis, ils vont avoir... donc, là, les 7 films de la compétition, c'est 7 longs-métrages de fiction. Et... Donc c'est un prix du public qui est quand même un petit peu choisi. C'est pas au nombre de votes maximum. Voilà. Et après, il y a la remise des prix pour les courts-métrages avec le jury qui est dirigé par Pascal Bussière, qui est composé de 7 femmes. Il y aura 6 voix, mais ce qui est un duo. Mais donc on a fait un jury exclusivement féminin cette année.
Les tarifs pour terminer, encore une fois, ça reste assez abordable. Je ne me souviens plus non plus si vous avez un peu augmenté ou pas, mais j'ai bien l'impression que
non,
c'est comme l'année dernière.
On n'a jamais augmenté, on n'a jamais changé les tarifs en fait. C'est 6,50€ la place. Vous pouvez prendre 3 places d'un coup, ou vous pouvez prendre un pass qui coûte 35€, mais il faut être adhérent à la nouvelle dimension. Une bonne occasion d'adhérer, puisque avec 15€ de plus, vous êtes adhérent et vous avez le pass.
Une belle édition encore cette année pour le festival Vue du Québec. Auditeurs, auditrices, retrouvez toute la programmation sur cinémaquébécois.fr. Je mets tous les liens sur notre site tout à l'heure. Merci beaucoup Guillaume.
Merci.
Et merci beaucoup Julien.
Merci.
Excellent festival à vous et à toute l'équipe. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de Menhir. Tiens, ça va être original, mais on écoute d'abord Les Colocs avec André Fortin au chant d'Idédé. L'excellent film Dédé dans la brume sera projeté pendant le festival. Ce sera le mercredi à 17h15. 45, c'est parti.
Pour moi, mais je m'ennuie pareil. As-tu compris? Je m'ennuie de tes cuisses, je m'ennuie de tes seins, je m'ennuie de tes yeux, t'ennuies-tu des miens? J'ai 20, dis-moi les buts. J'étais pas faite pour toi non plus. T'es faite comme un ordinateur, sorry, no compute. C'est que je fasse ça. Calice reste donc juste une petite nuit, puis on va s'aimer jusqu'au matin. T'es obligé de partir chez ben, mais t'es pas obligé de partir tout de suite. On va se rouler un gros pétard, on va se péter la fiole en deux. Tu vas me dire André, trop tard, on peut être copains si tu veux. On va se péter la fiole en deux. Tu vas me dire André, est trop tard, on peut être copains si tu veux. Pis ça je le sais, ça va me faire chier. C'est rien copain, j'aime mieux tout seul. Mais je t'orgueilleux quand je suis avec toi. Ça fait que je vais fermer ma gueule. On va faire l'amour en silence, comme des amants, un peu blasés. Avant de me donner mes vacances, fais-moi croire que je suis pas clairé.
Un mystère a apparemment été résolu. Pourquoi donc, mais pourquoi nos ancêtres préhistoriques ont-ils dressé des dizaines de menhirs sur la chambre des bonzons? On va essayer de ne pas divulgâcher la raison d'aujourd'hui, puisque vous aurez la réponse, auditeurs, auditrices, lors d'une conférence sur ce sujet le samedi 5 avril à 18h et elle sera donnée par Jean Fossard. Jean, bonjour.
Bonjour Ben.
Merci d'être avec nous. Alors on va essayer d'attiser la curiosité de nos auditeurs, mais déjà, qu'est-ce qui a fait qu'en 1994, vous vous êtes posé cette question et que vous avez commencé vos recherches?
Ouais. Alors c'est une longue histoire. En fait, en 77, ça remonte déjà en 77, j'achète une ruine ici, au Bondon, sur la commune des Bondons. Une ruine, donc je vais retaper avec des copains. Et donc je vais tout retaper, je vais même faire la couverture en lauze. Mais je remarque dès le départ que sur un linteau d'une fenêtre, il y a des inscriptions. Donc il y a une année, la date de construction de la maison, 1752, et puis les initiales de celui qui l'a construite, PP. Et donc déjà en 77, même dans les années qui ont suivi, je me suis toujours posé la question de savoir qui avait construit ma maison. Je voulais savoir qui vivait là, ça m'a toujours intéressé. Et donc à l'époque, j'ai changé beaucoup de métiers dans ma vie, hein. Donc j'ai travaillé, j'étais instituteur, après j'ai eu des chèvres, après j'étais électricien en industrie, électricien en bâtiment, j'ai travaillé dans le bâtiment. Et donc à l'époque, donc une quinzaine d'années après, j'achète une autre ruine à Mende. Un appartement en ruine à Mende, c'est pas vraiment un truc très dur. Et donc je me casse le dos dans cette histoire et je me retrouve complètement invalide. Donc j'ai une hernie discale et j'ai des béquilles. Et en fait, comme l'appartement se trouvait à côté des archives départementales, que je suis bloqué, je me dis tiens, c'est l'occasion, je me traîne avec mes béquilles aux archives départementales et là je cherche. Et en fait, en cherchant donc qui avait construit ma maison, je trouve la réponse, en effet, mais au bout d'un certain temps, c'est pas si simple que ça. Donc j'apprends qu'il y a des registres d'état civil, enfin il y a le cadastre napoléonien, donc il y a les noms des parcelles, donc je commence à avoir une idée de ce qu'est mon village, etc. Enfin tout ce qui, comment dirais-je, parle des habitants, même les noms des gens, donc je sais qui va faire ma maison, il s'appelle Puech, Pierre Puech, en 1750. Mais en attendant les ouvrages, les documents qui facilitent mes recherches, j'ai l'occasion de consulter d'autres ouvrages. Et là, je vais consulter en fait trois types de documents. Un livre qui s'appelle Les légendes du Gévaudan, qui est de Benjamin Bardi. Benjamin Bardi, il était connu à Mende, il était archiviste. Donc il écrit Les légendes du Gévaudan. Ça, c'est vraiment la base de mon système. Je lis aussi des documents d'André Soutou. André Soutou, qui est un professeur à Mende, qui est préhistorien. En même temps, il est professeur au lycée de Mende. Et puis, je lis des comptes rendus du sénateur de la Lozère, Charles Morel, qui était docteur et sénateur de la Lozère, sur la Champ des Bondons, parce que ma maison se trouve sur la Champ des Bondons. Donc, il parle des menhirs et il parle, mais là, on va être obligé peut-être de divulguer le truc. C'est pas possible qu'on passe dès le départ. C'est pas grave parce que c'est quand même la base. Vous allez voir que c'est très intéressant, même pour vos auditeurs, je pense. Et en fait, ces gens-là, surtout Soutou et Bardi, parlent d'un personnage qui déplace les mégalithes, qui les porte sur son dos. Et qu'on appelle la vieille. Mm-hmm. Vous voyez, donc je suis obligé de le dire, c'est la vieille. Or la vieille, donc, moi je vais faire mes recherches, et je vais m'apercevoir qu'à peu près, elle déplace environ une dizaine de mégalithes en Lozère. Ça part de Chanac jusqu'à Saint-Germain-de-Calberte.
Donc ils ont été déplacés.
C'est des mégalithes qu'elle déplace, qu'elle porte sur sa tête. C'est une vieille femme, une vieille géante. Forcément géante, parce que quand on voit les pierres qu'elle a déplacées, selon les légendes, ce ne sont que des légendes.
Ah voilà, c'est ce que j'allais dire, supputation, légende.
Voilà, donc c'est là-dessus que je vais faire mes premières recherches. Et moi, à l'époque, je me dis, mais donc tout le monde parle, enfin pas tout le monde, ces gens-là parlent de la vieille qui déplace des dolmens. On a par exemple le dolmen de l'Omède, donc sur le Causse Sauveterre. Elle va porter la pierre de couverture sur sa tête. Elle va prendre les deux montants du dolmen sur ses bras. Et donc elle va le déplacer, elle va l'amener là. Quelques kilomètres plus loin, on a Bramonas. À Bramonas, on a un autre dolmen. Alors là, la pierre, elle est monstrueuse. Donc là, elle va la porter sur sa tête, la vieille, tout en tricotant. Ça, c'est des choses qui me plaisent bien. Vous voyez, moi, je suis assez cartésien. Je suis très cartésien. Voilà, c'est un peu ça, donc ma philosophie. Enfin, ni Dieu ni maître, on va dire. C'est plutôt mon truc. Et je me dis, mais ça, c'est super. Et moi, depuis tout le temps, depuis que je suis au Bondon, ceux qui connaissent les Bondons, c'est deux pêches jumeaux qui dominent tout le paysage avec une longue crête qui fait à peu près 2-3 km de long et qui vraiment domine le paysage. On peut les voir à des dizaines de kilomètres à la ronde. C'est vraiment un repère. Et moi, je me dis, cette paire de collines, c'est une paire de seins. C'est une paire de seins. Et le ventre, c'est le ventre d'une femme enceinte. Ça, c'est dans ma tête, j'avais déjà ça depuis 20 ans. Bah, avec ma femme, on a eu des enfants, donc ça, c'est pas difficile de, quand on voit deux collines, de se dire, deux collines jumelles, en plus de se dire que ça pourrait être les seins d'une femme. Et du coup, je me dis que c'est peut-être les seins de la géante. Et donc, ma théorie va partir là-dessus, je vais dire, finalement, on a le ventre de la géante au bondon et on a les menhirs des phallus tout autour. On est dans un système de fécondité, de maternité. C'est vraiment tout à fait un culte phallique. Voilà. C'est le départ de mes recherches. Et donc, je vais écrire un petit opuscule que vous avez en main.
Le secret des menhirs. Alors, justement, tout part de légende. Mais est-ce que après, vous allez trouver des explications rationnelles, entre guillemets, beaucoup plus terre à terre? Vous disiez que vous étiez cartésien.
C'est tout à fait... Le système, il est là, justement. C'est que tout ça, ce ne sont que des légendes, donc ça tient pas... Enfin, pour un cartésien, ça ne peut pas tenir debout. Mais par contre, surtout, le deuxième personnage dont je vais avoir les documents entre les mains, lui, il parle de toponymie, il parle des noms de lieux. Et les noms de lieux, il s'aperçoit que la vieille, elle est partout présente en Lozère. Et donc, je vais reprendre les recherches de Soutou, je vais les reprendre du début à la fin. C'est-à-dire que je vais faire les 150, ou je ne me rappelle plus le nombre de communes de Lozère. Je vais prendre le cadastre napoléonien. Donc, ça va me prendre à peu près une année. Ouais. Et donc, je vais y aller, je vais chercher des vieilles. Après, ça va être une obsession d'aller chercher des vieilles. ça va être une obsession. Et donc, je vais trouver à peu près 80 toponymes, 80 noms de lieux. Du type rocher de la vieille, enclos de la vieille, montagne de la vieille, enfin, pierre de la vieille. Donc, à peu près 80, dont on peut dire que sur la moitié ne sont pas véritablement liés à cette vieille-là, cette vieille des bondons. Mais donc, la moitié, par contre, des fois, vous allez le record, c'est même 47 km. 47 km à vol d'oiseau. Vous allez à un endroit en Aveyron, donc parce qu'après, j'ai travaillé sur l'Aveyron. En Aveyron, vous avez je ne me rappelle plus du nom exact, c'est la montagne de la Vieille, juste à côté de Sévrac, le château. Quand vous montez sur cette montagne, par temps clair, je dis bien par temps clair, vous voyez les bondons à 47 km en ligne droite. Donc, je m'aperçois qu'en fait, les toponymes relatifs à la vieille sont liés à la vieille des bondons, donc à ce que je suppose être le corps de la vieille. Bon. Et c'est là-dessus que je vais faire écrire mon premier ouvrage. Forcément, il va être dans les librairies lozériennes, mais il ne va pas être accepté par les gens, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional.
C'est de l'auto-édition.
C'est de l'auto-édition. Moi, systématiquement, je fais tout moi-même. C'est peut-être un tort, parce que si j'avais eu un éditeur, il aurait peut-être poussé mieux la chose. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là.
Est-ce qu'après toutes ces années, là encore aujourd'hui, vous découvrez des nouvelles choses? Est-ce que vous arrivez encore à vous surprendre?
En fait, toute ma vie, c'est fabuleux. Quoi. C'est fabuleux. Mais bon, c'est pareil, c'est un cheminement qui est... Ce que je vais dire même à la fin de ma conférence, je vous en parlerai peut-être pas là, ce que je vais dire à la fin de ma conférence, c'est que cette vieille, elle est encore vénérée dans certains pays, mais je parle de millions de personnes. Mais ça, c'est vraiment, j'ai découvert ça il y a à peu près 2 ans. C'est un long travail, si vous voulez. Ça se fait pas comme ça. Donc toujours par rapport à la toponymie, par rapport au nom de lieu.
En quoi c'est important de comprendre un peu ces sites-là, tant en termes de légende qu'en termes de réalité, entre guillemets, préhistorique?
Moi, je sais que je suis un amoureux de la Terre. Hein. Moi, je suis en Lozère, c'est parce que j'ai la folie de ces beaux paysages. On a une chance terrible d'être là. Et je parle de la vieille et je me dis, mais moi, pour moi, c'est un rapport presque charnel que j'ai avec... En plus, j'habite au Bondon, j'habite tout près d'elle, quoi. Et je me dis, mais ça, c'est quelque chose de génial, quoi. Elle représente pour moi la Terre-Mère. Vous voyez, il y en a qui vont parler de Gaïa, hein, qui vont parler de... Vous allez voir que même par rapport à Gaïa, mes recherches, ça va tout chambouler. Je vous le dis franchement, ça va tout chambouler. Mais c'est quelque chose, moi, c'est par rapport à la Lozère, que c'est dommage que les Lozériens ne sachent pas qu'il existe un... qu'il existe ce personnage. Pour moi, elle fait partie du patrimoine, hein, fait partie du patrimoine lazérien. J'en ai parlé à la directrice récemment, à la directrice du patrimoine départemental, hein, Mme Darnas. Bon, les gens sont toujours dubitatifs. Même vous auriez beau leur apporter toutes les preuves possibles, les gens sont quand même assez un peu dubitatifs, quoi. Bon, ok. Bon, même à l'époque, quand j'ai sorti mon premier bouquin au Parc National, on m'a reçu. À l'époque, c'était Rémi Noël qui habite dans le coin, je crois.
Saint-Laurent-de-Trèves.
Donc. Bon, je l'ai vu, il m'a dit qu'il était d'accord avec ma théorie, mais qu'il pouvait rien faire au niveau parc national. La direction régionale des affaires culturelles, là, c'était la, donc la région, là. C'est pareil, je suis passé sur France 3, dans une émission, donc, à l'époque, hein. Et bon, bah, le responsable de la DRAC, il m'a pas pris pour un charlot, alors que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, je l'avais pas vu ce type, hein. Mais avant d'être pris par les caméras, celui qui présente l'émission, le présentateur, lui dit, alors qu'est-ce que vous pensez de ce que dit monsieur Fossard? Et moi, je savais même pas qu'il existait, ce gars-là. Et il dit, Je ne peux pas cautionner de telles affirmations, mais très, pas méchamment, mais enfin bon. Ça partait mal pour moi, hein, mais bon, par contre, l'émission s'est bien passée, hein, quand même. J'ai pu faire passer mes idées, mais ça partait mal quand même. Voilà.
Mythes et légendes, hein, chacun d'y croire ou pas, et puis.
Le problème, c'est quand même qu'il y avait les noms de lieux. Hein. Les noms de lieux, c'est important. Et ça, les gens ont fait l'impasse là-dessus. Sauf que les noms de lieux. En 30 années, je peux vous dire que j'en ai... Et là, après, je vous laisse poser vos questions.
Moi, je me posais la question aussi, puisqu'évidemment, vous allez encore découvrir d'autres choses. C'est quoi les prochaines étapes de votre travail de recherche ?
Ah, là, c'est de faire connaître vraiment la vieille. Vous voyez, donc là, je suis en Lozère maintenant, définitivement. Si vous voulez, moi, à une époque, mes enfants allaient à l'école au Bondon, hein, mais ça remonte. Hein. J'ai vécu par intermittence, je faisais beaucoup de voyages. Hein. Je partais avec ma femme, on partait plusieurs mois, puis on retrouvait quand on revenait, il fallait retrouver du boulot. Donc c'est pour ça qu'on changeait souvent de boulot. Mais là, mes projets, non, c'est de faire connaître la vieille, donc je veux vraiment mettre le paquet là-dessus. Je veux dire, il me reste que quelques années à vivre, hein. J'ai plus de 71 ans, donc je
vais... Vous les faites pas.
Et c'est un peu la dernière ligne droite, et je me dis non, je veux pas m'en aller comme ça, quoi. Ça c'est clair, ça.
Mmh. Eh ben, auditeurs, auditrices, allez vous faire votre idée, en tout cas, allez écouter la passion de Jean, merci beaucoup.
C'est moi, Ben, qui vous remercie.
Votre conférence, pourquoi nos ancêtres préhistoriques ont-ils dressé des dizaines de menhirs sur la champ des Bondons, j'ai dit la cham tout à l'heure, je m'en excuse, c'est ce samedi à la salle communale, donc des Bondons, et c'est à 18h, c'est évidemment gratuit. Et alors, vous me parliez hors antenne d'une expo que vous allez faire cet été. En quoi ça va consister ?
Bah c'est, vous savez que maintenant, j'ai découvert ça il n'y a même pas 3 semaines. Parce que je fais partie de quand même d'associations, de gens qui s'occupent de mythologie française, de mythologie. Hein, en général, ce sont des enseignants. Moi, je suis pas universitaire. Je suis pas du tout universitaire. Moi, en général, ce sont des universitaires qui s'occupent de faire des recherches sur la mythologie française. Ça parle de Mélusine, ça parle de Gargantua. Vous voyez, ils font des recherches là-dessus. Et on se réunit dans des congrès. Chaque année, donc je fais des conférences pratiquement tous les ans. Mm-hmm. Du coup, j'en ai perdu le fil de votre question.
Je vais vous poser la question sur l'expo de cette.
Oui,
été.
L'expo, ça sera ça. Voilà, oui, c'est ça. Il y a 3 semaines, c'est vraiment fou parce que tout au long de la vie, on apprend des choses. Hein, et une personne de mon association m'avait dit, mais elle avait fait un dessin avec une vieille qui est près d'un dolmen. Et j'ai dit, mais d'où c'est que tu as eu cette illustration ? Et elle me dit, avec l'intelligence artificielle. Et j'ai dit, mais c'est, je connaissais un peu de nom, quoi, mais comment tu fais ? Et donc elle m'envoie la manière de le faire. Quoi. Et mon fils est technicien, lui il est technicien en informatique, il travaille à Mende, mais un de mes fils du moins travaille à Mende. Et je l'avais tanné, j'avais dit, bon, tu peux me montrer, tu peux. Puis il me dit, il n'avait pas le temps. Puis à un moment, j'ai dit, bon, écoute, j'ai ma collègue, là, elle me dit qu'on peut faire des choses. Et lui, comme il est de la partie, il fait à peine, en même pas une minute, il m'installe le programme, il m'installe tout. Il me fait quelques manips. Je demande, dessine-moi une vieille avec des menhirs. Et là, on a des images. Ouais. Fabuleuse, mais vraiment des trucs d'un réalisme, c'est de la folie, donc je vais faire, comme il y a énormément de légendes, sur tout l'hémisphère nord, ça part vraiment de tout l'hémisphère nord, la vieille est beaucoup plus connue dans les îles britanniques, même dans Scandinavie, en Bretagne, qu'en Lozère. Qu'en Lozère, elle est totalement méconnue, alors qu'elle est très présente, très présente. C'est une vieille qui déplace des menhirs partout, qui jette des menhirs. Et donc, par l'intelligence artificielle, j'ai des images, là, je suis en train de travailler là-dessus. Donc, je vais faire des grands panneaux que je vais certainement proposer au musée du Gévaudan. Parce que là, cette année, vous avez vu, vous êtes peut-être au courant, ils font une exposition sur l'ours. Bon, ça peut paraître anachronique. Bon, il y avait des ours à la préhistoire. Bon, voilà. Mais sinon, l'ours en Lozère, je pense qu'il y aurait des problèmes si déjà il y a des problèmes avec les loups si on en mettait des ours. Donc, moi, je vais leur proposer une exposition pour l'an prochain. Je vais leur proposer. Maintenant, ils seront peut-être capables de me dire non, on fait pas. Mais moi, s'ils font pas, moi, je ferai de mon côté. Voilà, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Dernière ligne droite, je vais pas laisser passer ça.
En tout cas, cet été, ce sera au Bondon.
Au Bondon, oui, il y aura une exposition temporaire. Ça peut être 2-3 jours. On va faire ça en même temps que, ça sera dans le cadre du foyer rural, on va faire ça en même temps qu'une, il y a chaque année un récital de musique baroque, musique classique, enfin, plutôt baroque, ouais. Donc par, elle s'appelle Mathilde Thomassin, donc peut-être vous la connaissez.
Ah, on connaît très très bien Mathilde,
bon,
ici. Ouais.
Donc l'année dernière, j'étais, donc, je l'ai vue plusieurs fois, donc on va certainement faire, elle va faire son récital, certainement, et moi, pendant 3 jours, à côté, à la salle communale des Bondons, je ferai cette exposition avec des grands panneaux explicatifs, mais bon, je pense que ça va être pas mal, quoi, je pense.
En tout cas, on en reparlera sur cette antenne, auditeur et auditrice. Évidemment, on reparlera de l'événement de Mathilde aussi, qu'on annonce tous les ans. Merci beaucoup et bonne continuation à vous.
Merci Ben.
Au revoir.
Allez, au revoir.
Et voilà, c'est la fin de ces instants des Bartas. On se retrouve très vite. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. Ciao.
Petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le casse-bord, la caisse-pop, le croque-mort et le magasin général. Quand j'y retourne, ça me faisait mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. L'autre jour, j'ai amené ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais né. Aussitôt arrivé, me blanc en beau Joalbert. Ça avait l'air de Val-Jalbert. Quand j'y retourne, ça me faisait mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Ouais! Une bonne journée, je y retournais avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Sur la grande rue, c'était plus vivant que ça. Des petits culs en bicycle, des cousines en visite. C'était loin d'un monde comme en Afrique. Quand j'y retourne, c'est pathétique. Ça va tomber mal, sa rue principale. Depuis qu'ils ont construit le McDonald's.
Voici Patrick Esposito du Napoli.
Ils sont plus rien que 3000, puis la rue principale est devenue bien tranquille. L'épicerie est partie, le cinéma aussi, et le motel est démoli. Ah, quand j'y retourne, ça me fait mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Oh, ah! Une bonne journée, je vais y retourner avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure.
Wow, 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 wow.
Dans ma petite ville, on était juste 4000. Puis la rue principale, ça s'appelait Saint-Cyril. La coop, le casse-bord, la caisse-pop, le croque-mort et le magasin général. Quand j'y retourne, ça me fait mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat.
centre d'achat. Le centre d'achat.